Chapitre 2. Cesare, pensif, gagna l'embrasure de la fenêtre et s'y adossa. Le jour n'était plus. Les meubles de la chambre se distinguaient à peine. La rue serpentait, déserte et louche. « Nous traitons ?» dit le juif. Un homme sortait du vague au bout de la rue, se dirigeant vers la place, et Cesare le regardait venir. Il passa, couvert jusqu'aux yeux d'une cape élégamment drapée, la médaille d'or à la mode brillait au devant de sa barrette. « Un invité de Baccio, » songea le sculpteur. « Alors ?» insista Tubal. Cesare laissa couler négligemment. « Je veux la gloire !» Le juif toussa pour déguiser une exclamation d'impatience. « Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas avec votre fringale de gloire. Enfin, la gloire, qu'est-ce que c'est? Un emballage? Qu'est-ce que Praxitel, Phidias, Lysippe, des momies? Rien d'autre !» Plusieurs passants firent un guet-apage. César discerna des plumes abondantes, des médailles de fastueux éclat métallique. « Je veux la gloire. Pour elle, je consens à mourir en pestilence d'impiété. Faut-il renoncer à Dieu, perdre son salut? Je suis prêt. Veux-tu mon âme? Je te la donne. »« Vous me prenez pour un autre, » fit Tubal très amèrement. Et Cesare continuait dans une surexcitation grandissante. « Mais je la veux, moi vivant et moi poussière. Il est impossible que tu n'aies pas les moyens de me la donner, toi qui donnes la mort si aisément. Alors, les événements nous pressent. Regarde ces beaux muguets qui vont chez Baccio. Demain, c'est la ville entière qui verra son Andromède. Il ne sera plus temps. Tubal, je te ferai des cires autant que tu en voudras, mais donne-moi la gloire. Sinon, c'est résolu, je choisis la mort. » Tubal tressauta. Mais je n'ai pas assez de puissance, messer Bardone. Que voulez-vous que je fasse? Hors l'envoûtement, je ne sais rien. Mais c'est déjà si formidable, avec une telle arme, on devrait défoncer tous les obstacles. Comment faire? Le pavé retentit. Un homme encore arrivait à pas pressés. Il fit un écart et passa vite au large à cause du porche suspect, favorable aux embuscades. « Et si vous appréhendez la vue de Monacri à Renard, quittez ce poste, messer, et ne serait tardé maintenant. » Cesare aussitôt s'éloigna de la fenêtre. Il répétait, « Mais comment faire? Oh, disposer d'un pouvoir surnaturel et rester là, stupide, mais comment faire ?» Et ce furent sans question à propos de l'envoûtement. Tubal y répondait avec lassitude et laissait l'ambitieux Bardone s'épuiser en vaines recherches. « Mais trouve donc !» s'écriait par moments le sculpteur. « Je suis sûr que tu ne connais pas toutes les ressources de la magie. Oh, je trouverais bien, moi, sans être sorcier. Sang du Christ, je trouverais !» Et brutal, ils cognaient ses poings l'un contre l'autre et les faisaient se battre comme deux béliers. Il les contempla subitement et poussa des rires imprévus. « Qu'avez-vous ? » s'enquit le juif. « Ce que j'ai, mon mignon, ha ha ! J'ai que si ma dextre s'endolorit des coups de ma sénestre s'endolorit aux coups de ma dextre. J'ai, charmant Tubal, qu'on se frotte pas seulement l'œil gauche pour éclaircir l'œil droit, mais encore l'œil droit pour éclaircir l'œil gauche. J'ai... » Il est fou, pensa le juif. La rue s'animait au passage d'un nouveau groupe. Une dizaine de gentilshommes derrière un porteur de fanal, tous enveloppés de sombre, coiffés d'autruches et masqués. Ils disputaient d'une manière importante, et l'un d'eux, de taille avantageuse, marchait cambré les coudes aux épaules de ses voisins. Mais Cesare et Tubal n'étaient plus dans la chambre pour les remarquer. La bande emplumée franchit le seuil du palais de l'Attaca. Les masques sautèrent et des manteaux rejetés surgirent leurs costumes du dernier galant, Monsieur de Est et ses âmes damnées. Banchio, tout habillé d'aurore, s'avançait à la rencontre de ses hôtes. Sa chevelure tombait en lourdes coques. Il avait le col flexible et le doux visage d'une femme. À Ferrare, certains raillaient sa mine de travesti, mais d'autres, se souvenant de Raphaël, penchaient à vénérer cette grâce hermaphrodite. Il s'adressa au grand diable de cavalier qui faisait bouffer ses manches à gigot. « Salut, libéral protecteur des arts! Monseigneur, votre esclave est honoré plus qu'il ne saurait dire. Moi de bavardage, cousin, la statue, voilà ce qui m'intrigue. Par ici, magnifique !» Baccio lui-même avait choisi l'heure de la visite, en mémoire d'une anecdote qui courait sur le Jupiter de Cellini, et dans l'assurance que son Andromède gagnerait encore au jeu d'un éclairage savant. Plus de 100 torchères illuminaient le cortile, chacun concourant à ce but. À l'entrée des nouveaux venus, un concert de musique se fit entendre sur la galerie, et ceux qui les avaient devancés les saluèrent. Alors il y eut au parage des statues la plus courtoise mêlée du monde. Les toques à médailles confondirent leurs panaches, la soie des simars brochés crissait sur le taffetas des justaucorps, et les belles épées dans leurs fourreaux de cuir se donnaient des caresses. Il fallut se taire. On attendit le jugement de son Altesse. Il ne tarda. Le duc ayant tourné suffisamment, prononça « Bellissima ! C'est là, de point en point, ce que je voulais. Bravo ! Tu as bien suivi mes indications. Elle fera merveille demain sur la place. Bellissima, encore un coup !» Baccio, comblé, lui baisa la main. Ce fut le signal de l'Alléluia. Chacun se récria sur l'idée astucieuse des trois statues. Et pour l'Andromède, dès que l'on connut l'agrément du duc et qu'il avait participé à l'inspiration du chef-d'œuvre, le superlatif « Bellissima » fut tant de fois réduit qu'on se serait cru dans l'église. San Francisco, dont l'écho répétait « C'est beau pour qu'on en lui jota ».« Bellissima !» savourait le cardinal Pompeo Malatesta, commissaire apostolique. « Bellissima !» décidait Falciero, le jeune peintre de la cour. « Bellissima !» appuyait Ercole Torrigiani, l'inséparable écuyer d'Alfonso. « Bellissima !» concluait le graveur sur pierre fine Faliero Belli, dont les camées faisaient fureur. « Bellissima !» reprenait Hannibal et Stocchi. Et la peau de Blatti, l'espadassin Duco, deux rues de chiens de garde qui ne connaissaient pas la peur. Baccio triomphait, splendide comme un jeune dieu. Par instant, il regardait le ciel étoilé d'un air bien heureux. Mais déjà le duc, affectant l'indifférence, avait pris à l'écart Ippolito Malespini, maître Calvadecadour, et l'entretenait de la parade équestre dont il voulait rehausser son entrée à Modène. On circulait en devisant. Des épagneuls nains et des levrettes deux à deux rôdaient entre les jambes, soupçonneux et craintifs. Et là-haut, dans la galerie du banquet, les serviteurs rangés le long de la balustrade assistaient à la réception. Cette contrée-là était brillamment éclairée. Les fresques semblaient sortir des murs, et les tapisseries de Flandre qui bouchaient les arcades montraient tout le relief de leur verdure bleue et de leurs personnages épiques. Elles faisaient, au lieu du régal, un fond de singulière opulence, sur lequel on voyait, d'en bas, les musiciens souffler dans la cornemuse, le cornet et le fifre, gratter le luth et le théorbe, ou racler de la viole d'amour. La nuit répandait une mansuétude. Après un temps désœuvré, Baccio entendit le duc qui l'interpellait. Eh bien, unique, va-t-on souper? Sur le champ, magnifique, votre Altesse avait daigné prévenir l'heure, mais nous voilà, je pense, au complet. Eh, gentil cousin, tu fais la grimace? Il y a de la contrariété dans ces sourcils. Mais par Dieu, monsieur mon sculpteur, où est donc le divin modèle de ta divine statue, cette précieuse Chiarina que j'avais demandé à voir? Nous la réserves-tu, jaillissant d'une tourte, sans plus de voile qu'Andromède, afin que nous estimons la ressemblance tout à notre aise? Si cela est bravissimo et suce au repas. Ben, je n'y comprends rien, mon seigneur. Chiarina n'est pas encore arrivée, dit Baccio, en chiffonnant la pointe brodée de son col. Dans un moment, sans doute. J'ai faim, brusqua le duc. Montons, montons, si votre Altesse veut bien nous précéder. Le majordome toussa fictivement. La musique s'éteignit aussitôt. Mais trois pinceurs de guitare jouèrent la ritournelle d'un chant carnavalesque composé par le duc lui-même, et le chauffeur bridonna et entonna la première strophe. Dans le cortège, les poètes repassaient des vers pour les déclamer de place en place au cours du festin. Baccio se sentait de fort méchante humeur. « Baste, lui dit le duc, ne taquine pas les ferrets de ton aiguillette, abaisse-toi. Les femmes ont toujours quelques parures qui rétivent juste à point pour les retarder. » Malgré tout, le jeune homme restait maussade. L'étincellement de la table chargée de lampadaires, de surtout ciselés, de flacons cristallins et de coupes à anses de dragon, lui semblait terne à faire peur. Les valets portaient comme autant de bélitres les aiguillères de vin de Frioul. Dans leur plat au fin guilloschi, les mets d'apparat, dressés pourtant de la bonne façon, n'offraient plus rien que de burlesque. Bien que le cuisinier s'y fût évertué à reproduire l'aimable édicule que l'on voit dans la cathédrale de Luc, il méprisa le temple à huit faces, à dôme et à colonnes, qui était un pâté. Moins, toutefois, que la paysanne napolitaine dont un cochon de lait fournissait les appâts. Mais il décréta hideux les chapons rôtis en forme d'homme. Des confitures sèches, imitant une grotte où reposaient certaines calypsos de frangipane, il la fit enlever comme blessant les regards. Si bien que la nef d'Ulysse vogue désormais sans but, avec sa coque en poitrine de paon, ses voiles de pâte, ses rames de vanille et sa cargaison d'ambre mat. On s'assit dans les cathèdres altières. « Laissez une place à ma droite pour Chiarina, dit son Altesse. Je prétends jouir d'un pareil trésor, premièrement lui passer ce collier d'émeraude. » Ercole Torrigiani, l'écuyer, se mit à sa gauche. « Que votre statue est admirable, messer Baccio, quel que soit le point de vue, dit l'éminentissime Pompeo Malatesta. Voyez d'ici comme elle produit grand effet. Dans nos brousses, des torchères, ne dirait-on pas qu'elle met à profit la solitude pour se mirer au bassin. Mais le genou lui trouble son miroir, et la voilà comme Andromède au-dessus de l'onde océane, qui n'est jamais spéculaire. M'y connaîtrons-nous ce soir, Morina Chiarina, ou bien est-ce une fan de votre part, et craignez-vous les entreprises d'Alfonso? » Bolidone cessa de chanter. Les conversations bourdonnèrent. Il s'y mêla bientôt une rumeur plus rauque et, pour ainsi dire, envahissante, qui venait du dehors. « Qu'est-ce ? » fit le duc en éveil. Une alerte dérangea le souper. Ercole Torrigiani, se levant d'un saut, disparut derrière les tapisseries pour aller regarder sur la place. Hannibal Stecchi et Lapole Plati, la main aux armes, apprêtaient déjà leur bravoure légendaire. Mais d'un regard, Falciero, le jeune, arrêta les bretteurs. Penché sur le dossier d'Alfonso d'Aeste, il tranquillisait le duc. « Ce n'est rien, monseigneur. Selon vos instructions et pour fomenter l'engouement dès ce soir, j'ai répandu le bruit que la statue de Baccio était une merveille des cieux. Notre annonce éclata comme l'explosion d'une vérité que nulle défense humaine ne pouvait contenir plus longtemps. Vous en voyez les faits. Conduit par des gens à nous, voilà tous les apprentis et tous les connaisseurs de faits rares qui viennent acclamer votre cousin. » Ercole, issu des tapisseries, grommelait. « La place est noire de croquants. On demande à voir la statue. En tout cas, magnifique, soyez sans crainte. Nos mesures sont prises comme d'habitude. » Il tapotait un corps d'ivoire suspendu à sa ceinture. « N'empêche que je n'aime pas les attroupements, » termina l'écuyer. À travers les hautes lisses flamandes et par le ciel ouvert du corps-t-il, on entendait un grondement sourd relevé d'apostrophes distinctes qui étaient comme des éclairs de chaleur dans un couchant. « Baccio, Baccio, la statue, l'Andromède, montre-nous ton œuvre, Baccio. Elle est à nous, à la ville. » Baccio, tout pâle, incertain, questionnait le duc par ses yeux élargis. « Ben voici la renommée, mon cousin, » publia son Altesse. « Va, montre-toi, parle. Dis-leur qu'ils verront la statue demain et qu'ils se dispersent. »« Ah, mais pas tout de suite, mordieu, laisse-les s'égosiller un peu. » Par Apollon, la fière sérénade, écoute-la, Baccio, de toutes tes oreilles. Il n'y a point de chorale ici-bas qui vaille à tel charivari. Les fumées de la gloire montaient. Cependant, le majordome Hernando, prenant son air le plus confidentiel, s'en vint chuchoter quelque information dans le cou de son maître. Baccio lui fit face comme un automate violent. Elle était partie, déjà partie, et le coureur ne l'a pas rencontrée. Alors elle devait être ici. Pardon, monseigneur, je le sais. Carina devait être au milieu de nous. Permettez-moi de m'enquérir. Assailli de pressentiment, il avait quitté sa chair sans plus attendre. Un flambeau ! La foule redoublait d'impatience. Au fond du vestibule, des poings allègres martelaient la grande porte et le heurtoir frappait en cadence parmi les chansons d'atelier. « Mais c'est ce rassemblement qui l'empêche d'entrer, » dit Faliero Belli. « Gageons plutôt qu'elle est dans le palais, » aventura le duc, « et qu'elle n'ose se présenter devant nous. » « Dieu le veuille, Hernando, viens !» Baccio s'éloigna, portant comme un bouquet de flammes un candélabre à plusieurs branches. Son majordome le suivit. Un guichet les escamota. Puis on entendit l'infortuné parcourir sa demeure somptueuse et la bouleverser. Des portes battirent, un rideau craqua, déchiré. Des choses sans prix dégringolèrent avec un tintamarre de vaisselle et de casserole. Hernando, le majordome, poussait des plaintes à chaque désastre. Mais le vacarme d'affolement continuait de plus belle, et le nom de Chiarina résonnait de chambre en chambre, clair ou confus, proche ou distant. Il fut crié dans le jardin jusqu'au fond, se perdit tout là-bas et revint plus angoissé vers le palais. Ses appels, en dépit de leur force, étaient noyés parfois dans l'immense clameur d'humanité qui s'enflait perpétuellement. « Chiarina ! Chiarina ! » Elle est Baccio. Et le peuple impérieux réclamait « Andromède ! Andromède ! Andromède !» avec sa voix bariolée. D'autre part, les convives de la scène interrompue se regardaient, indécis. Ercole Torrigiani maniait son corps d'ivoire. Les autres émiettaient le pain, tournaient des hanapes. Le duc seul, réjoui de la confusion, réprimait à grand-peine son envie de rire. Une idée lui vint qui déchaîna le transport des courtisans. « Musique » ordonna-t-il, « musique !» La compagnie de Maître Bridone attaqua le passe-pied favori de son Altesse et la foule d'y répondre par un tumulte de joyeuses séditions. Baccio reparut alors au creux du cortile avec son candélabre éteint. Il traversait à la hâte, voulant gagner la porte de la place. Tout à coup, ceux qui l'observaient du haut de la galerie entendirent un choc. Ils virent Baccio s'arrêter brusquement près de l'Andromède et lâcher le candélabre qui roula de la marcelle dans le puissin. Le majordome, survenant, poussa des cris de calamité. Comment cela s'était-il fait? Un bras de la statue venait de se rompre et gisait à terre. On descendit précipitamment, tous valets, grands seigneurs, musiciens pêle-mêle. Ils reculèrent, sitôt qu'arrivés. L'autre main, se détachant du poignet de bronze, tomba sur les dalles. On ne comprenait pas ce qui se passait. C'était un prodige obscur et détestable. On voyait seulement de grands sillons labourer sans bruit le corps de la statue et la détériorer comme à plaisir. Puis soudain, l'outil invisible offensa la noble matière au pli du bras suivant. Et le plus atroce, c'est qu'on n'eût pas dit que ce fût là du métal raviné, mais de la chair lacérée. Jamais le bronze ne s'étant ruiné de cette façon. Oui, de la chair tailladée avec une âme. Oui, avec une lame méchante, une lame experte aussi, puisque le peintre Falciolo le Jeune, qui suivait d'un œil épouvanté les progrès de la blessure, croyait voir désosser un coude par quelque anatomiste rompu au minutie de la dissection, un émule d'Ambroise Paré ou de Michelangelo. L'avant-bras s'abattit, mais ce n'était pourtant qu'un morceau de bronze. Or, la statue démembrée avait l'air d'un bel antique. Sa face immobile et placide contrastait avec la torture qu'elle semblait endurer. Baccio l'enlaça désespérément. Malgré son étreinte, une jambe fut coupée nette comme une jambe véritable qu'on eût tranchée d'un coup de hache. Et Baccio n'avait rien senti, non, rien vu, rien empêché. Maintenant, la destruction s'acharnait au bas-ventre avec une fureur érotique. « Il y a de la magie là-dessous, » fit le cardinal. Et s'étant signé, il prononça des formules d'exorcisme. Maintenant, la gorge d'Andromède subissait affront sur affront. « Le Bargello !» s'écria le duc passablement égaré. « Mais qu'il vienne ! Justice ! Justice Hannibal et Lapo !» Les spadassins se présentèrent. Hannibal était blême et la peau tremblait. « Courez chercher le Bargello !» Pendant qu'il tâchait d'obéir, soudainement on ne s'entendit plus à cause de la foule infatigable qui reprenait « L'Andromède ! L'Andromède, Baccio !» Des milliers de cris soufflaient en bourrasque. Une tempête redoutable exigeait la statue et le statuaire. Baccio chancela. Une lueur naissait enfin. Des rapports s'établissaient. Andromède, portrait, effigie de Chiarina. Et la disparition de cette même Chiarina. Et les envoûteurs, mon Dieu! Il concevait, encore que sans précision, l'odieuse pratique renversée, l'envoûtement à rebours. Ah! Et c'est alors qu'il fut semblable à son propre fantôme et que ses hurlements éclatèrent si lugubres. Où es-tu, Chiarina? Mon cœur, ma bien-aimée, réponds-moi. Chiarina, Chiarina, courage, me voici, j'arrive. Personne n'osa le retenir dans sa fuite. Il ouvrit la grande porte, et Ferrare était là, tout entière, et les têtes sans nombre houlaient, et les charges rougeoyaient sur les cendres des hommes. Une ovation satisfaite l'accueillit. « Ah, la statue, l'Andromède !» Mais déjà les plus rapprochés se taisaient à la vue de ce Baccio, qui n'était plus Baccio. Ses yeux fous sont de l'espace vivant, la nuit maudite. « Laissez-moi passer, implorait-il, la statue !»« Il n'y a pas de statue, il n'y a pas de statue !» C'est Mona Chiarina qui je cherche. Oh, la martyrise! Il appela de toutes ses forces. Chiarina! Devant ses larmes, la terreur et la pitié ouvrirent un passage. Il prit sa course à travers les rues et ses cris enroués s'enfoncèrent dans l'ailleurs. Quelqu'un le remplaçait sur les marches de l'entrée, silhouette jeune et virile, les mains en porte-voix. Citoyens de Ferrare, on se moque de vous. L'Andromède de Baccio, de l'Attaca, n'existait pas. La merveille du monde, je le jure à la face de Dieu, c'est la statue de mon maître, l'Andromède de Cesare Bordone. C'était Felipe Vestri qui saisissait l'occasion par les cheveux. Un son nasillard aigu lui coupa la parole. On sonnait du cor à l'intérieur du palais, signal convenu. Des sbires mêlés aux citadins tirèrent d'ac et vlamberge. Le guet surgit et les arquebusiers entreprirent d'écarter la foule. Cela produisit un désordre à la faveur de quoi des inconnus masqués s'échappèrent du palais dans une escorte de bravilles et de gendarmes. Dès leur éclipse, la tranquillité se rétablit. On vous trompait, reprit d'un autre côté le harangueur opiniâtre. Venez voir la statue de Cesare Bordone, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Des voix éparses le soutenaient. C'est vrai, oh, il a raison. Vive Cesare Bordone! C'étaient les élèves et les amis de Cesare. Felipe Vestri avait été refoulé sous le porche de la maison voisine. Il aperçut dans l'ombre une tache blanche, un visage livide. Il s'approcha. « Tenez » cria-t-il, et traînant un homme vers l'assemblée. « Le voilà ! Vive Cesare Bordone de Comacchio ! Vive le Comacchio ! » Le peuple était venu pour acclamer, c'est-à-dire pour s'acclamer lui-même en la personne d'un citoyen d'élite. Après la déception que Baccio venait de lui infliger, un âpre besoin de revanche le tourmentait. Le génie de Cesare sauvait son orgueil. Comme une brusque illumination retentissante, 1000 cris saluèrent le sculpteur du nom de Comacchio. En même temps s'élevaient de nombreux « À la statue, chez lui, chez Bordone, en avant !» Et d'une poussée, l'entassement reflua vers le héros. Il sentit qu'il fallait marcher, conduire cette multitude. Il se mit donc à marcher dans la rougeur mouvante des torches. Et comme un fleuve impétueux, soumis aux lois d'un enchanteur, sa patrie exaltée le suivait. Il se laissait faire. Entouré de ses disciples, ballotté de l'un à l'autre, il avançait à la manière d'un ivrogne qui se raidit. Arriva bene le soutint. Felipe lui prit le bras. « Vous étiez donc là, mon pauvre maître. Vous aussi, vous étiez venu pour assister au sacre de Baccio ?» Cesare Bordone remua les lèvres sans parler. La foule débordait autour d'eux. On se heurtait. Les femmes surtout désiraient contempler la tête immortelle au profil d'aigle. « Qu'il est pâle, disait-on. La joie au père Bacco, si forte et si soudaine. Oh, il a bien gagné depuis le temps. Oh, l'enragé, il s'est encore battu, voyez sa joue. Oh, c'est probablement vrai. Mauvais coucheur, mais bel artiste. On l'aura griffé dans la bagarre. » La joue rayée de quatre griffes rouges, le comacchio n'entendait rien, sinon la formidable marée triomphale qui porterait son nom jusqu'aux suprêmes postérités. Il essayait de sourire et gardait un front sévère. Il avait l'impression d'aller vers l'avenir en marchant dans la rue. Grâce aux torches et la nuit aidant, cette rue perçait un défilé plein d'écarlate et de noirceur, tapissé d'or semé de trous. Et Cesare Bordone regardait devant lui comme un homme qui a des visions de gloire et d'horreur.